Française, français.
Bonjour.
Le général de Gaulle est mort.
C'est pas la gauche, la France.
La France est veuve.
C'est pas la droite, la France. La France, c'est tout à la fois. C'est tous les Français.
En 1944, nous a conduit à la libération. Il a donné à la France actuelle ses institutions.
Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur ?
Et que, dans l'âme nationale, De Gaulle vive éternellement.
Vous êtes à l'écoute de De Gaulle 2020, l'émission qui nous replonge dans les méandres et la personnalité complexe et tourmentée du général De Gaulle, de son histoire singulière, qui est aussi la nôtre, puisque De Gaulle prétendait être la France, prétention dont nous avons, avec le temps, le recul de l'histoire, accepté l'augure. Tout le monde est, a été, sera gaulliste, disait-on de son vivant. Aujourd'hui, tout le monde, toutes les forces politiques du moins, s'inclinent devant sa statue. Mais qu'est-ce qui, en 2020, peut nous relier encore au général 50 ans après la mort de cet homme né au 19e siècle ? C'est ce que nous explorons chaque dimanche de l'été.
De Gaulle 2020.
C'est lui qui a dit « Tout le monde est, a été ou sera gaulliste », n'est-ce pas ?
Thomas Legrand, sur France Inter.
Français, c'est moi, Churchill, qui vous parle. Pendant plus de 30 ans, dans la paix, comme dans la guerre, j'ai marché avec vous et je marche encore avec vous aujourd'hui.
Churchill parle aux Français à la BBC, c'était en octobre 40. Un autre Anglais, aujourd'hui, parle aux Français. L'historien Julian Jackson est l'invité de De Gaulle 2020. On continue cette semaine à explorer le mythe de Gaulle, à nous demander pourquoi cet homme monument est si présent au-delà de la nostalgie et admiré, au moins respecté par tous les chiquiers politiques. On ne peut plus s'afficher politiquement en France en se disant anti-gaulliste. La semaine dernière, nous nous étions posé cette question avec trois hagiographes contemporains assumés. Aujourd'hui, nous prenons un peu de distance, donc critique avec Julian Jackson, professeur spécialiste de l'histoire du XXe siècle français à l'université Queen Mary of London. Il signe une monumentale biographie du monumental général au seuil, De Gaulle, une certaine idée de la France. Biographie admirative, hein, quand même, mais qui montre aussi la dureté, la froideur, l'orgueil du personnage. La distance toute britannique nous aide à percer un peu le mystère de Gaulle.
Pour moi, le mythe actuel, c'est peut-être pas la vérité de De Gaulle. Il est devenu incontournable depuis quelques années, mais on oublie à quel point que pendant sa vie, il a été vraiment haï, au point où, en fait, il y avait des gens qui voulaient le tuer, il y avait des tentatives d'assassination, etc. L'extrême droite l'a détesté, les communistes l'ont opposé, etc. Donc, mais depuis, peut-être depuis les années 80, où je crois qu'il y a eu un peu de nostalgie pour une période revenue où, en fait, la France a l'impression peut-être de ne pas être au premier rang, pour utiliser une expression de De Gaulle. Et donc, je crois que dans cette obsession, c'est peut-être un peu trop fort, mais dans ce goût actuel pour De Gaulle, il y a un peu de nostalgie pour une France qui n'est plus. Et donc, en De Gaulle, les Français voient une espèce de pour employer encore un mot gaullien, une espèce de grandeur qui n'est plus. Et donc, dans la nostalgie pour De Gaulle, il n'y a pas simplement le De Gaulle de la guerre, le De Gaulle qui a dit non à la défaite, à l'armistice, à Pétain, mais il y a aussi une nostalgie pour les années 60, où la France était vraiment une puissance importante, où les intellectuels français étaient les plus importants du monde. Je pense à Jean-Paul Sartre, je pense à les vedettes de cinéma comme Brigitte Bardot, et je pense à la technologie, les Caravelle, les Citroën, etc. Donc quand on pense à De Gaulle, je crois que toutes ces idées sont un peu mêlées au mythe actuel. Parce que je suis anglais, je peux prendre l'exemple chez nous du mythe de Churchill. qui n'est pas tout à fait faux. Churchill était quelqu'un de très important. Mais quand même, il y a actuellement, depuis quelques années, il y a eu deux films sur Churchill. Il y a notre premier ministre qui est actuel, qui a écrit une biographie de Churchill qui n'est pas très bon, mais quand même, qui se voit même comme une espèce de Churchill. Et donc, je crois que là aussi, quand même, il y a cette idée que nous avions été un grand pays et on se raccroche à l'idole, au mythe, pour avoir une plus grande idée de nous-mêmes aujourd'hui. Donc je crois qu'il y a un peu la même chose de De Gaulle. Donc c'est pas simplement une nostalgie pour la période où les gens qui peuvent se souvenir de cette période, mais même les gens qui n'étaient pas nés ont une espèce de nostalgie pour une France qui n'est plus.
Eh bien, mon avis...
Une archivina avec ici la voix si particulière de François Mauriac.
Et que De Gaulle, dans une France puissante, n'aurait jamais été au pouvoir, qu'il serait resté dans l'ombre. Je crois que c'est ce qu'il y a de si beau et de si singulier dans le destin de De Gaulle, c'est qu'il est l'homme du fond de l'abîme. C'est que, pour que De Gaulle devienne le maître de notre destin, il a fallu que la France connaisse le plus grand désastre de son histoire. C'est au fond de cet abîme que De Gaulle, seul, condamné à mort dans son pays, exilé, ne représentant aucune force, eh bien c'est à partir de là qu'il est devenu et qu'il a été De Gaulle.
Aujourd'hui, tout le monde est gaulliste. Pour vous, qu'est-ce qu'il y a de très français dans le gaullisme? Pourquoi le gaullisme a été si important et reste si important dans l'imaginaire presque identitaire de la France?
De Gaulle est si important, parce que le gaullisme, je crois que c'est autre chose, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais De Gaulle, parce que il représentait dans sa personne une certaine idée de la France, pour reprendre sa propre expression, en fait. Une façon de faire la politique, une espèce de héroïsme, en fait. Un côté très littéraire, qui n'est plus le fait de beaucoup d'hommes politiques actuels. Il est français à 100%, à 1000%, si vous voulez, en fait. Il y a quelque chose de fondamentalement français en De Gaulle. Son obsession avec l'histoire de la France. Il y avait une phrase qui sortait de temps en temps. C'est peut-être une boutade pour s'amuser, où il disait... Je le dis depuis 2000 ans, comme s'il avait... Et donc, il a cette idée que De Gaulle résumait dans sa personnalité quelque chose de très, très français, de cette idée de dépasser les clivages. Parce que beaucoup de Français, maintenant, qui se revendiquent de Gaulle, viennent de traditions très anti-gaullistes. Je prends, par exemple, l'extrême droite ou l'ancienne extrême droite, ce qui... Rassemblement national, Front national, etc., qui a un héritage très, très anti-gaulliste.
Qui s'est même construit sur l'anti-gaullisme au début des années 70, sur le souvenir de la guerre d'Algérie, et c'est ce qu'il considérait comme trahison. C'est comme ça que le Front National, notamment, s'est construit, avec des anciens collaborationnistes et des anciens Algéries françaises. Donc vraiment l'anti-gaullisme.
Prenez un autre exemple, en fait. Quelqu'un qui a eu une relation très, très, très compliquée avec De Gaulle, et ça c'est François Mitterrand. Et François Mitterrand, dans un sens, a construit sa carrière contre De Gaulle. Pendant la guerre, il s'est heurté à De Gaulle quand il était très jeune, Mitterrand. Ça, depuis sa première rencontre avec De Gaulle, ça s'est très mal passé. Et dans la Ve République, c'est lui qui était contre les institutions de la République, qui a même écrit un livre qui s'appelle « Le coup d'État permanent », qui a, dans un sens, fait sa carrière contre De Gaulle, qui était candidat contre De Gaulle en 65, mais qui était au même temps, dans un sens, obsédé par De Gaulle. Et quand il est devenu président, c'est le seul qui a pu, dans un sens, habiter ces institutions avec une conviction totale. Et donc, il y a quelque chose de presque passionnel dans les rapports que les Français ont avec De Gaulle. Et même si ils ont toujours contesté De Gaulle, ils ne peuvent pas ne pas penser à De Gaulle. Cet homme qui était quand même incontournable, qui est vraiment le personnage central du XXe siècle.
Le gouvernement français, après avoir demandé l'armistice, connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi. Or, beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude, l'honneur, le bon sens, L'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
Ce que l'on vient d'entendre, c'est bien sûr l'appel du 22 juin, celui du 18, acte originel de la résistance, n'a pas été enregistré par la BBC, il n'y en a plus de traces qu'écrites. Cet appel, entendu ou pas, bien c'est la naissance du mythe.
On parle du mythe, mais c'est quoi le mythe? C'est-à-dire qu'on parle par exemple du mythe du 18 juin, mais le 18 juin a bel et bien existé. De Gaulle est quand même venu en Angleterre, il a fait un discours au BBC, et même si pas beaucoup de gens ont écouté le premier discours de De Gaulle, l'appel du 18 juin. Quand même,
oui, c'est une réalité, c'est pas un mythe, c'est une réalité.
Oui, mais il y a un mélange. Le discours a existé, même si, en fait, il faut dire que le texte, ce que De Gaulle a dit, est légèrement différent de ce qui est publié après, mais ça n'a pas grande importance. Mais ce que je veux dire, c'est réel, ça a existé, c'est très important. Tout De Gaulle vient de cet acte courageux et remarquable, cet appel, cette rupture.
Julian Jackson, quand je parle du mythe, oui. Je parle du mythe que De Gaulle construit aussi de la France, de lui-même et de la France. Par exemple, pendant toute la guerre, il n'aura de cesse que de faire croire ou de faire comprendre aux alliés que la France, c'est lui. Et la France, c'est pas Pétain, que la France est important. Il va essayer de l'asseoir à la table des vainqueurs. Et finalement, la France existe par la puissance de la représentation de De Gaulle. Pendant la guerre d'Algérie, quand il dit « je vous ai compris », on ne sait pas à qui il parle. Il y a toujours quelque chose comme ça, une sorte d'incarnation. Il veut incarner au-delà du raisonnable. Et finalement, il y arrive.
Oui, et en fait, il a dit lui-même qu'il avait assumé la France quand il arrive à Londres. Et il y a des gens qui se moquent, des Britanniques qui se moquaient. Qui est ce général qui débarque, qui dit qu'il est la France? Mais en disant qu'il était la France, c'était pas un acte de folie, ni un acte simplement romantique. C'était un choix, c'est-à-dire, puisque il y avait, selon lui, en France, un gouvernement qui n'était pas, pour lui, un gouvernement légitime, parce qu'un gouvernement sur le sol d'un pays occupé qui avait signé l'armistice, pour lui, il fallait en fait qu'il soit quelqu'un qui pourrait parler librement pour les intérêts de son pays. Et donc, il y a un moment très célèbre quand il est rejoint par un des premiers gaullistes, René Cassin, le juriste à Londres. Et Cassin arrive début, fin juillet ou 40, ou début août. Et en fait, ça tombait très bien pour De Gaulle parce qu'il voulait quelqu'un pour l'aider à rédiger le mémorandum avec le gouvernement britannique. Et Cassin lui dit, mais nous sommes quoi exactement pour signer ce document? Et De Gaulle dit, nous sommes la France. Et ce qu'il voulait dire par ça, c'est que le gouvernement, le soi-disant gouvernement de Vichy n'est pas la France, et donc je suis la France. Donc il y a ce côté, mythique, presque fou, mais pour moi c'est un calcul, pas une folie, parce qu'il n'y avait pas d'autre homme politique. Il attendait, quand il arrive à Londres, il attendait que, par exemple, le dernier président de conseil de la Troisième République, Paul Reynaud, vienne. Mais personne d'important est venu, donc il a dit, puisqu'il n'y a personne, ça sera moi. Et Churchill a dit la même chose. Je vous reconnais, vous êtes seul, et donc je vous reconnais seul, parce qu'il n'y a personne d'autre. Mais pour revenir à ce côté mythique, oui, vous avez tout à raison à dire qu'il a construit son mythe, parce qu'après la guerre, il a commencé à écrire ses mémoires. Et ses mémoires, c'est où on le voit fabriquer ce personnage qui a existé, mais qu'il fabrique comme un personnage d'histoire et de littérature. Je ne pense qu'à Jules César, en fait, de gens qui écrivent leur propre histoire à la troisième personne. Donc quand De Gaulle écrit ses mémoires de guerre, il commence « Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France ». Mais après, le jeu, qui est le Charles de Gaulle qui écrit les mémoires de guerre, voit et met en scène le Charles de Gaulle à la troisième personne. Et donc de Gaulle, Charles de Gaulle voit de Gaulle cette création presque littéraire et historique qui est un personnage qui agit en histoire, etc. Donc oui, il crée le mythe. Il fait ça très consciemment. Donc c'est quand même assez remarquable. Prenez encore l'exemple de Churchill. En fait, Churchill a écrit ses mémoires de la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est moi, c'est je. Il ne crée pas une personne qui s'appelle Churchill, qui n'est pas où il le voit agir. Mais ça, c'est le cas de De Gaulle.
Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone. Suffocant et blême, quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte. De-ci, de-là, pareil à la feuille morte. La rumeur là vient de la ville. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de-ci, de-là, pareil.
Charles Trenet, Verlaine, et l'on sait que les vers de Verlaine en 44 furent des messages codés pour la résistance française pour dire que l'heure de l'insurrection était venue. Le mythe est aussi littéraire, poétique, l'action et l'art des mots entremêlés.
De Gaulle, 2020. Thomas Legrand, sur France Inter.
Et puis il y a la propagande.
Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Honneur et patrie.
Le général de Gaulle vient de visiter quelque part en Angleterre une importante usine d'armement qui construit notamment des chars d'assaut. Partout où il est passé, le chef des forces françaises libres a été l'objet de la part des ouvriers et aussi de la part de la population de la ville voisine d'un accueil des plus chaleureux, comme les Anglais en réservent à ceux qu'ils ont élus dans leur cœur. Mais au-delà du général de Gaulle, les acclamations de ses ouvriers allaient à la France tout entière.
C'était une archive de la BBC du 21 octobre 1941. Alors, Julian Jackson, quand Churchill, pour la première fois, voit le général de Gaulle, est-ce que lui, tout de suite, il pense que c'est la France? Est-ce qu'il est d'accord avec cette espèce d'assertion gonflée du général de Gaulle qui lui dit « Je suis la France ». C'est quand même un toupet incroyable.
La réponse, pour moi, c'est oui et non. Donc, il reconnaît. Il dit, comme j'ai dit tout à l'heure, vous êtes seul, donc je vous reconnais seul. Et il y avait dans ce geste quelque chose de romantique, d'impulsif, une espèce d'intuition. Mais il faut dire que Churchill pensait que dans le sillage de De Gaulle, d'autres personnes viendrait à Londres. Et donc il était en fin de compte un peu déçu que ce jeune général qu'il avait déjà rencontré, qui débarque, qui se trouve seul. Mais quand Churchill le reconnaît, entre guillemets, il ne le reconnaît pas comme la France. Et ça, c'est tout le problème des relations passionnelles, conflictuelles entre ces deux personnages. Parce que De Gaulle veut être vu comme la France. Et en fait, les Britanniques n'acceptent jamais que De Gaulle est la France. Pour eux, il représente les Français libres, mais il n'est pas la France, il n'est pas le gouvernement français, il n'a pas le statut d'un gouvernement en exil. Et tout le problème, en fait, pour De Gaulle, vient de ce décalage entre sa façon de se voir, en fait, d'assumer la France, et le fait que pour les Britanniques, il est chef de ces Français très courageux qui combattent, etc. Mais ce n'est pas la même chose que d'être la France. Et tout le problème des relations de Churchill et de Gaulle viennent de ce malentendu, si vous voulez. Mais le problème, Churchill, en mettant le BBC, Churchill, dans un sens, crée, il est un peu comme le Frankenstein, qui a créé un monstre qu'il ne peut plus apprivoiser, parce que par sa puissance de rhétorique, par ce lien presque un peu mystique qu'il crée avec la population française à travers la Manche, à travers les ondes, on revient au mythe. Les Français, dans un sens, ont dû créer leur propre image de cette personne qui leur parle et dont ils ne connaissent que la voix. Pour tout le monde, il devient incontournable. Et donc Churchill, qui ne savait pas exactement ce qu'il faisait quand il a dit à De Gaulle, « Oui, vous pouvez voir le BBC, je vous reconnais, etc. » Et tout le en fait, il y a d'autres raisons pour le problème entre les deux, mais ça, c'est un des grands problèmes.
Dès la première fois où je pris contact avec lui, j'eus la conviction que la Grande-Bretagne, conduite par un pareil Luther, ne fléchirait certainement pas.
Propos tirés des mémoires de guerre de De Gaulle, lus par Jean de Sailly.
Monsieur Churchill me parut être de plein pied avec la tâche la plus rude, pourvu qu'elle fût aussi grandiose. L'assurance de son jugement, sa grande culture, la connaissance qu'il avait de la plupart des sujets, des pays, des hommes qui se trouvaient en cause, enfin sa passion pour les problèmes propres à la guerre, s'y déployait à leur aise. Par-dessus tout, il était, de par son caractère, fait pour agir, risquer, jouer le rôle très carrément et sans scrupule. Les incidents rudes et pénibles qui se produisirent à maintes reprises entre nous, en raison des frictions de nos deux caractères, de l'opposition de certains intérêts de nos pays respectifs, des abus que l'Angleterre commit au détriment de la France blessée, ont influé sur mon attitude à l'égard du Premier ministre, mais non point sur mon jugement. Winston Churchill m'a paru, d'un bout à l'autre du drame, comme le grand champion d'une grande entreprise et le grand artiste d'une grande histoire.
Est-ce qu'il y a aussi entre les deux hommes une relation un peu étrange, parce que ce sont deux hommes iconoclastes, deux hommes qui sont un petit peu à côté de la classe politique classique de leur pays. Churchill est arrivé, on ne sait comment, dans des conditions compliquées aussi. Il n'était pas spécialement apprécié quelques mois avant de prendre le pouvoir. Il était considéré comme quelqu'un d'un peu étrange, qui avait toujours des idées un peu bizarres. Et oui. De Gaulle était qui il était. Est-ce qu'ils se sont un peu reniflés, sentis comme deux fauves, deux bêtes politiques un peu étranges, et il y avait ce respect mutuel, non?
Oui, je crois qu'il y a toujours un très grand respect mutuel, en fait. Ils sont deux personnages pétris l'histoire. Ils sont obsédés par les histoires de leur propre pays, et Churchill a senti en De Gaulle quelqu'un comme lui, pour lequel compter l'histoire. Et il faut jamais oublier que Churchill était très très francophile. Et on ne peut pas dire que De Gaulle était anglophile, mais Churchill était un grand admirateur de Napoléon. Donc il y avait, oui, en Churchill, un côté romantique qui sentait une espèce d'affinité avec ce personnage. Même au pire des relations entre les deux hommes, il y avait un respect. Et de Gaulle dit dans ses mémoires qu'il était le grand artiste d'une grande histoire. Et pour lui, il était un artiste dans le sens comme un grand homme politique, un artiste. Il créait sa propre légende presque. Et il avait beaucoup d'admiration pour lui. Donc pour moi, oui, il y avait beaucoup de conflits. Mais en fin de compte, il y avait beaucoup de respect réciproque.
C'est un peu comme si la France et l'Angleterre se parlaient directement.
Oui, je crois que Churchill voyait en De Gaulle quelque chose qu'il... une espèce de condensé de tout ce qu'il admirait dans la France, même si souvent il est très frustré. Je me souviens, il y a une anecdote en fait du médecin personnel de Churchill, Lord Moran, qui a écrit ses mémoires après la guerre, son journal en fait. Il avait accompagné Churchill à Casablanca, en Fa, pour une réunion entre Roosevelt et Churchill, qui était très important, janvier 43. Il y avait les deux généraux. Il y avait le général Giraud, qui était un peu le poulain des Américains, et il y avait De Gaulle. Et De Gaulle arrive, et il est insupportable, il dit non à toutes les propositions de Churchill et Roosevelt, etc. Et il y avait des disputes homériques entre De Gaulle et Churchill. Mais à un moment, en fait, il le voit disparaître, ou il voit après une réunion, et il dit à Moran, mais vous voyez, cet homme, il n'a rien. Il n'a pas d'armée, mais il agit comme s'il était Jeanne d'Arc ou Napoléon. Donc il y a un peu de il voit en De Gaulle cette image romantique qu'il a de la France. Et donc pour lui, il y a toujours un basculement entre cette frustration et cette admiration. Donc oui, je suis d'accord, je crois qu'il y a un peu de ça dans cette relation très compliquée entre ces deux hommes.
Love me or leave me. Be lonely. Inside my head there's a voice that controls me. I'd rather be somewhere else with anyone but me. Oh, love me or leave me and let me be lonely. Been down so long now that happy is holy. I'd rather be somewhere else with anyone but me. 7 years strong with my therapy, making mosaics of my memories. Puzzled with doubt, I'm my closest enemy. It's like this girl is squatting in my identity. She's a raver, little libertine, then a bouncer to my dopamine. Tried so hard to become a referee, to even out the game that's between my mind and me. Love me or leave me and let me be lonely. Inside my head there's a voice that controls me. I'd rather be someone else with anyone but me. Ooh, love me or leave me and let me be lonely. Been down so long now that happy is holy. I'd rather be someone else with anyone but me. Man and wife, Peckham preacher, giving bad advice. She just does the spending and then I pay the price. Trying to be Khalees, but she always tricked me twice. God, I know I could do better. Anyone but me. Ooh, love me or leave me and let me be lonely.
Joy Crooks, Anyone But Me, personne d'autre que moi. Voilà ce qu'aurait pu dire le général de Gaulle à Churchill en 40. Nos programmateurs musicaux, Thierry Dupin en l'occurrence, sont vraiment trop forts. Nous sommes toujours avec l'historien anglais Julian Jackson.
France Inter. De Gaulle 2020.
Est-ce qu'en Angleterre aujourd'hui, Churchill a la place que de Gaulle a en France ?
Oui et non. Oui, dans le sens où, comme j'ai dit au début, il y a maintenant une petite obsession presque avec le Churchill de 40. Je ne dis pas que ça explique le Brexit, mais je crois que le Brexit, pour quelques Anglais comme Nigel Farage, qui était le dirigeant du parti Brexit, et Johnson, etc., ils ont cette image de notre pays tout seul contre tout le monde. Et Churchill incarne, si vous voulez, cette idée. Mais je crois que, à part ça, l'influence de Churchill est beaucoup moins importante dans l'histoire de notre pays. Mais de Gaulle, il y a quand même plusieurs périodes, plusieurs strates, si vous voulez.
Dans de Gaulle a construit aussi la France moderne sur laquelle on vit dans les Trente Glorieuses de 58 à 70. Et ça marque, exactement, ça marque la politique. Exactement. Et Churchill n'a pas eu cette chance. Il a été d'ailleurs, il a perdu les élections après la victoire de la Seconde Guerre mondiale.
Et de Gaulle aussi, qui a assumé la décolonisation, qui a compris, peut-être pas tout de suite, mais qui a compris que c'était un processus inévitable. L'héritage de Churchill, à part 40, n'est pas très visible, si vous voulez, dans notre pays. Et moi, je dirais presque que l'héritage de Churchill n'est pas quelque chose qui est très sain pour notre culture politique chez nous, je veux dire. Parce que il y a tellement de fantasmes et d'illusions qui sont mêlés à cette idée de nous tout seuls en 40.
L'appel du 18 juin était une exhortation à ramasser les tronçons du glaive et à reforger les armes de la France. Ce soir-là, de Gaulle devint la voix et le souffle de la France libre. Il éleva la flamme de la résistance plus haut qu'un phare, pour que son faisceau d'espoir depuis les rives de la Tamise porte sur tout le sol de France. L'homme qui allait porter à bout de bras le destin d'un pays à bout de souffle, depuis Londres, grâce à Londres.
Voilà, vous avez reconnu Emmanuel Macron, il était le 18 juin à Londres et il a prononcé ce discours. Alors est-ce qu'il y a, Julian Jackson, plus de pertinence à ce que Emmanuel Macron se réfère et se compare même, ou prenne comme exemple le général de Gaulle, à ce que Boris Johnson fasse de même avec Churchill?
Déjà, je trouve que Macron est un personnage plus cérébral, plus intéressant, plus compliqué que Johnson. Et j'étais très frappé que la photo officielle du président de la République montre Macron devant une table, et sur la table derrière lui, il y a un livre qui est ouvert. Et le livre ouvert, c'est les mémoires de guerre du général de Gaulle. J'avais essayé d'agrandir pour voir sur quelle page le livre est ouvert, mais j'ai pas réussi. Mais pour moi, je crois que ça venait du fait que les institutions que de Gaulle avait créées, en 5e République, demandaient une approche différente du président normal, si vous voulez, de François Hollande. Je crois que Macron a senti que les institutions de la 5e République, dans un sens, pour le bon et pour le mauvais peut-être, obligent le président à jouer un certain rôle, en fait, à assumer. Et que presque les Français s'y attendent, même si après, ça peut tourner mal dans les histoires avec l'Égypte. Donc c'est un équilibre très, très compliqué.
Un rôle de dépassement, droite-gauche, un peu comme a voulu le faire le général de Gaulle, une sorte de rassembleur, une figure un peu tutélaire et surplombante, le président de la République.
Oui, si on prend la situation en 58, quand de Gaulle est revenu au pouvoir, pour la guerre d'Algérie, et la situation en 2012, quand le président Macron a été élu.
2017,
oui. On voit une ressemblance assez étonnante, parce que de Gaulle n'avait pas de parti en 1958. Il y a eu le RPF, vous vous souvenez, mais le RPF n'existait plus. Et un parti a été plus ou moins créé de rien en quelques semaines pour et qui a gagné les élections. Même chose avec Macron. Macron est élu, mais il n'y a pas de parti. Et le parti s'est créé autour de Macron comme le parti est créé autour de De Gaulle. Et dans les deux cas, oui, il y a cette idée de dépassement des clivages droite-gauche. Mais cette idée que Macron avait de la verticalité du pouvoir, je crois que c'est l'expression. Et je crois que c'est cette idée que, quand même, les institutions de la Ve République, dans un sens, imposaient au président de jouer un certain rôle. Il a bien connu de l'intérieur la présidence de Hollande. Et je crois qu'il a pensé sa propre présidence à venir en contraste avec la présidence de Hollande. Et je crois qu'il a pensé ça à travers, dans un sens, l'exemple de Gaulle. Mais quelquefois, ça, il y a des choses qui ne marchent pas. Par exemple, De Gaulle a eu cette idée qu'il aurait une relation directe et personnelle avec le peuple, au-dessus des têtes des élites ou des corps intermédiaires, etc. Et je crois que Macron, au début, a essayé de faire un peu la même chose. C'est-à-dire, il a un peu négligé l'importance des élus locaux, même des parlementaires. Donc, c'était une relation entre le chef et le peuple. Mais le problème, c'est qu'on devient très, très exposé, en fait. Parce que si les choses ne marchent pas, vous êtes la personne qui est la cible de tous les ressentiments, etc.
Oui, et puis ça ne marche pas parce que effectivement, ce n'est plus la même époque. Il y a les réseaux sociaux, il y a les chaînes Tout Info et une exigence envers le chef qui n'était pas de la même nature, en tout cas, que celle de l'époque du général de Gaulle. Donc le parallèle est intéressant, mais il a ses limites. Et je renvoie, alors c'est tout pas sur ce sujet, mais c'est sur donc toute la vie du général de Gaulle, une biographie très complète et très intéressante de Julian Jackson, qui était notre invité aujourd'hui. De Gaulle, une certaine idée de la France, le titre est simple, c'est publié au Seuil. Merci Julian Jackson.
Merci beaucoup.
Merci à notre réalisatrice Claire Destacan, à Pierre-Yves de Rolin, qui était à la technique aujourd'hui. Les archives sonores ont été collectées par Karen Day et Claire Tesser. On se retrouve aux alentours de 13h20 dimanche prochain, juste après le journal de la rédaction, comme tous les dimanches de cet été, ou n'importe quand si vous préférez le podcast, parce qu'on est libre, on n'est plus à l'ORTF.
Française, français.
Passez un bel été et...
Vive la République, vive la France.